Bon, alors quelle heure il est là? La nuit, carrément. Allons-y. Donc Paul-Laurent Hassoun, l'autre à jamais en sa jouissance, le féminin de Freud à Lacan. Tu as besoin de combien de temps?
Le plus possible.
Le plus possible.
Mieux?
Oui, il est 10h25, donc on est après un petit quart d'heure pour
D'accord. la salle. Mon titre est une citation. Il s'agit bien sûr de la préface à l'éveil du printemps de Wedekind par Lacan, où il situe cet autre à jamais en sa jouissance. Alors, de peur d'être précipité moi-même dans les 5 dernières minutes, je dirais d'emblée que c'est de ça qu'il s'agira dans mon exposé, c'est-à-dire de faire surgir ou de refaire surgir, puisque vous en doutez sans doute, Gérard l'a évoqué à sa manière, que c'est dans le féminin que la question de la jouissance, en sa fonction inconsciente, trouve son point terminal et sa vérité. C'est ça qu'il faut faire entendre. Je voudrais dire quand même que la jouissance, c'est ce que Lacan introduit dans la psychanalyse. Surgit, disons, en mars 58, dans les formations de l'inconscient, ça a peut-être déjà été évoqué. Enfin, c'est là que la jouissance est introduite comme une notion qui devient un opérateur, qui ne cesse d'enfler, qui ne cesse de prendre la place dans la théorie lacanienne. Et son statut dans le texte étant semblant un peu homologue à sa nature, c'est-à-dire de la chatouille au bidon d'essence. Et Lacan a une manière très particulière d'introduire au fond la jouissance et de lui donner toujours plus de corps sans jamais la définir, plutôt en tentant d'en ordonner les fonctions. Que je voudrais rappeler. Mais enfin, à la fin, il n'y en a plus pour elle. Voilà. Quand on arrive à la fin de la théorie de Lacan, dans les années 70, la jouissance est au centre même de la problématique. J'en ai fait l'histoire, de cette notion de jouissance, j'y reviendrai bien sûr, mais il faut d'abord partir de notre point, connu aussi, qui pose quand même une sacrée question au centre de cette journée, c'est-à-dire la jouissance, c'est aussi ce dont Freud semble omettre de faire le nom d'un opérateur spécifique. La jouissance ne s'étale pas chez Freud. Le terme Genuss, en allemand, est d'un usage, disons, parcimonieux. D'où la question quand même inévitable qui rôde autour de nos débats. Chez Freud, est-ce qu'elle y est, est-ce qu'elle n'y est pas? Le paradoxe, c'est que bien sûr, elle y est tout le temps. Et que c'est exactement la raison pour laquelle Freud ne l'élève jamais au statut d'opérateur, je veux dire d'opérateur métapsychologique. Il prend appui sans arrêt, je vais le rappeler, sur la jouissance dans son discours et dans sa pratique, mais Lacan, lui, l'a dit. De quoi retourner à Freud, au nom de Lacan, la question que Freud autrefois lançait à Charcot, à propos du sexuel, si c'est la chose toujours, pourquoi ne le dit-il pas? On pourrait prendre la chose comme ça, n'est-ce pas? Lacan adresse la question à Freud, puisque tu as sans arrêt la jouissance en quelque sorte dans ton acte, comment se fait-il que tu ne l'objectives pas en tant que tel? Ça me paraît très important donc quand même de rappeler pourquoi Lacan a eu besoin d'objectiver la jouissance. Alors plutôt que de me lancer dans une exégèse très longue sur l'histoire de la jouissance chez Freud et chez Lacan, je voudrais reprendre la question de front en quelque sorte. Rappeler, et d'une certaine manière je vais slalomer en quelque sorte sur un certain nombre de pistes qui étaient dans l'exposé précédent, mais à ma manière, où surgit-elle la jouissance dans le trajet de Freud, ce qui sera une manière de voir comment à un certain moment, comme dans une sorte de goulot d'étranglement, la question générique de la jouissance rejoint la question du féminin. Je dis ça pour pas que nous ayons simplement le confort de dire, de réciter qu'il y a deux jouissances, une phallique, l'autre celle de la femme, l'autre du féminin. Non, il faut essayer de comprendre comment ça surgit, cette histoire-là. C'est pas Lacan qui, en magicien, dans les années 70, nous sort ces deux jouissances qu'il s'agirait dès lors de réciter. Chez Freud, il y a un trajet que Lacan nous permet de refaire, un trajet plus obscur et absolument rigoureux, qui polarise la question de la jouissance sur la question du féminin. Et qui nous permettra donc, en bout de course, de réentendre d'exclamation lacanienne l'autre à jamais en sa jouissance. Autrement que comme une incantation. Oui. Alors, la jouissance, il faut quand même le rappeler, ça se donne comme une sorte de plaisir dans la langue courante. plaisir très intense, quand même. Ceux qui ne passent pas par la psychanalyse diront que oui, la jouissance est un plaisir, mais un plaisir très intense, plutôt un plaisir du haut. Hein. On réserve jouissance plutôt que plaisir quand ça monte. Hein. Et en même temps, ça peut être le bon gros jouir, comme dira Lacan. Le dictionnaire épistémologique Bloch et Wartburg dit que, voilà, rappelle que jouir, ça vient de gaudere, qui veut dire se réjouir, peut-être rejouir, jouir à nouveau. Il y a un moment important où la joyance s'est transformée en jouissance vers le 15e siècle, d'après Bloch et Wartburg, vers 1466, voilà qu'on a la jouissance dans la langue. Et le terme de jouissance est apparu au 15e siècle pour désigner au sens juridique, c'est bien connu, l'action de disposer d'un bien. Le terme étant lié à l'usufruit, le droit d'une jouissance d'un bien appartenant à une personne autre que le nu propriétaire. Voilà. Il y a jouissance quand il y a jouissance même d'un bien dont je ne suis pas nécessairement propriétaire. C'est les juristes qui parlent. C'est au début du XVIe siècle que le terme est revenu du droit au sexuel. Le terme prenant une nouvelle acception, celle d'un plaisir, ou encore de joie. Et évidemment, ça nous rappelle, c'est bien connu, mais je le rappelle, que la jouissance est toujours prise dans la question du droit de jouir. C'est pour ça d'ailleurs que les juristes parlent tout le temps de jouissance dans la pratique. C'est tout le temps de ça qu'ils parlent. Alors, comment Freud tombe-t-il sur cette affaire? Par la satisfaction. Par la question de la satisfaction, par la question de ce qu'il a, en allemand, la Befriedigung. Befriedigung, dedans, il y a Friede, qui veut dire paix. Alors, je veux dire, tu parles d'une paix, hein, puisque ce que Freud repère dès lors qu'il introduit l'idée de satisfaction et l'idée de principe de plaisir, c'est une satisfaction problématique. Pourquoi? Au fond, il y a des gens qui croient encore que Freud est épicurien, qui nous dit qu'il y a un principe de plaisir, ensuite un plaisir de réalité, mais qu'au fond, on cherche le plaisir. Ben non. Et depuis la psychanalyse, il n'y a plus aucun conatus, il n'y a aucun mouvement qui nous fait ontologiquement tendre à un plaisir. Le freudisme n'est pas un épicurisme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu à l'origine une satisfaction qui a été perdue. Et dès lors, la Befriedigung, c'est quelque chose qui ne cesse de tenter de rejoindre un plaisir, c'est quand même du plaisir, il ne faut pas exagérer, mais c'est tenter de rejoindre un plaisir qui est inactuel. C'est ma manière, au fond, de présenter la chose. C'est bien pour ça que, ça a été très bien dit tout à l'heure, le moi est coupé de sa satisfaction. C'est d'emblée dépersonnalisant. C'est d'emblée dépersonnalisant, en effet, puisque le sujet, au fond, cherche à reproduire quelque chose qui n'est plus là, et dès lors, ça ne le laissera plus en paix. Ni de jour, ça s'appelle le symptôme, ni de nuit, ça s'appelle le rêve. C'est ça le Wunsch. C'est tenter de rejoindre un plaisir perdu qui ne laisse pas en paix. Alors c'est là où le plaisir tourne forcément à la jouissance, puisque d'une part elle est perdue, d'autre part le sujet ne pense qu'à, enfin il fait comme s'il ne pensait qu'à rejoindre cette Befriedigung perdue. Contrairement à d'autres, Freud ne fait pas du tout de cette satisfaction originaire mythologique. Il décrit avec une rigueur extraordinaire l'espèce de cinétique, l'espèce de mouvement, de suppléance. Et naturellement, on a, si je peux dire, la suppléance, par excellence, qui est le symptôme. Le symptôme, c'est évidemment pas comme en médecine une dysfonction, une lésion, c'est une tentative de regagner quelque chose sur sa satisfaction perdue. Donc le symptôme, c'est un supplétif du refoulement. Voilà, qu'on pourrait avancer. C'est ce qui explique aussi que le plaisir se tient dans le corps, mais la jouissance, elle est effectivement domiciliée dans le corps, mais elle tente de rejoindre quelque chose qui est absent du corps. D'où cette histoire très bizarre de la jouissance. Du point de vue du symptôme, il faut distinguer du point de vue du symptôme du point de vue de l'amour. Du point de vue du symptôme, ça donne ce qu'on appelle le bénéfice du symptôme. Vous voyez que Freud, quand même, en parlant de que ça fait du bien, bénéficium, c'est de la jouissance qui parle, c'est la jouissance qui prononce. Indépendamment des bénéfices secondaires du symptôme, il y a un bénéfice primaire du symptôme. C'est ce qui fait d'ailleurs que le névrosé mène une vie de plaisir. Mais ce n'est pas pour son plaisir. Ça l'amuse pas, quoi. Voilà. Alors, dès lors, et bon, c'est pas un hasard, mais enfin, c'est amusant, je rejoins au fond effectivement un certain nombre de stations de l'exposé précédent, mais moi je le dirais de cette manière-là, plus directement métapsychologique, c'est là que la jouissance rencontre la question du fantasme. Pourquoi ? Parce que le sujet va avoir besoin de soutenir une sorte d'institution relativement pérenne du retour à une satisfaction qui n'est plus là. Ça s'appelle le fantasme. Pourquoi fantasme-t-on ? Pour se mettre en rapport avec ces restes de ce qu'il faut bien appeler des îlots de jouissance, hein, qui ne sont plus atteignables en direct, en live, si je veux dire, mais qui sont quand même présents. Hein. Freud le dit très clairement au plan métapsychologique. Le refoulement a eu lieu, donc fini, hein, basta, si je veux dire, avec le plaisir d'origine, c'est impossible, on ne retrouvera plus. Mais le refoulement laisse des traces, des restes, des déchets, et ces déchets de jouissance isolés, dont je ne veux plus rien savoir puisque j'ai refoulé, je les fréquente. Voilà, je les recycle, ces déchets, au moyen des fantasmes. Hein. Donc chaque fois que je fantasme, en termes plus psychologiques, il faut d'abord faire de la métapsychologie pour entendre la psychologie, ça veut dire que chaque fois que je fantasme, je vais aller chercher les déchets de la satisfaction d'origine que je n'atteindrai plus jamais, mais avec laquelle je me mets en rapport périodiquement grâce à mes fantasmes préférés, qui la plupart du temps, bien sûr, sont des scénarios extrêmement monotones. Celui qui fantasme n'a pas beaucoup d'imagination, hein, puisqu'il ne s'agit pas de faire divaguer son imagination, il s'agit de se mettre en rapport avec ses restes. Hein. C'est pour ça, quand même, le fantasme, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais à travers une délocalisation. Freud compare ça, vous savez peut-être, au Yellowstone Park, c'est-à-dire la première réserve naturelle américaine, c'est pas mal décrit, où il dit les grandes sociétés industrielles ont eu toujours besoin de garder une partie de leur territoire réservée à cet ensauvagement. Vous voyez, c'est pensée écologique au fond. Naturellement, l'écologie n'est qu'un sous-produit de la société industrielle. Hein. Voilà. Et ce côté ensauvagé de la jouissance, eh bien, dans mon Yellowstone Park personnel, je la fréquente, j'y retourne. J'y retourne, mais il faut, nous dit Freud, que ça soit bien séparé du reste. Hein. Ça soit bien séparé du reste, c'est-à-dire j'ai un pied dans ma réserve et j'ai un pied à l'extérieur. Il faut surtout pas que ça déteigne. Hein. Sinon, je vais me taper quelque chose qui s'appelle l'angoisse. De même dans mes rêves. Je convoque l'ancienne jouissance, mais je trafique suffisamment par tout le travail du rêve pour que je l'ai pas en face. Si je me tape le face-à-face avec l'objet de la jouissance, ça s'appelle le cauchemar. Et à ce moment-là, bien entendu, on sait que je n'ai qu'une idée, c'est de sortir de là, me réveiller. Alors, dès lors, Freud, n'est-ce pas, lentement mais sûrement, mais il nous donne la fonction de la jouissance. Il nous la donne dans le plaisir, en tant que c'est le destin du plaisir dans le refoulement qui produit dans l'ordre le symptôme, le fantasme et l'amour. Avec l'amour, c'est évidemment quelque chose de formidable, puisque je prends mon fantasme et je me le mets en consonance avec un objet extérieur, dit Freud. Hein, et à ce moment-là, je vais délocaliser encore plus le fantasme sur le corps de l'autre. Hein. Alors, un moment extrêmement important, je voudrais peut-être attirer l'attention là-dessus, parce que c'est peut-être peu repéré, où Freud est vrai, avec le nez sur cette question de la jouissance au plan clinique, c'est dans ce texte sur les fantasmes hystériques, dans le rapport à la bisexualité. Qu'est-ce que Freud nous dit hein, dans ce texte? Il nous dit que le fantasme, bien sûr d'abord, le symptôme hystérique apparaît comme la production du fantasme. C'est le symbole mnésique de certaines impressions, expériences, vécues, traumatiques, dont ils sont le substitut, accomplissement du désir, on connaît tout ça, servant à la satisfaction sexuelle. Donc c'est un compromis, un fantasme, c'est un compromis entre deux motions d'affect, l'une qui se satisfait, l'autre qui est réprimée. Mais voici, nous dit-il, un résultat inattendu. Voilà que dans les attaques hystériques, parce que finalement c'est un texte là sur les attaques hystériques, qui est la décharge motrice d'un fantasme, on voit apparaître deux fantasmes sexuels, deux signes sexuels différents, cumulés. La solution du symptôme exige deux fantasmes sexuels, dit Freud dans ce texte, dont l'un a un caractère masculin et l'autre un caractère féminin. Vous savez que c'est là où Freud récupère du point de vue du fantasme toute la théorie officielle de la bisexualité. Mais là où chez Fliess la bisexualité est un mystérieux principe biologique, c'est l'effet du travail du fantasme. C'est un moment extrêmement important dans le texte de Freud, en 1909, parce qu'il a l'attaque hystérique, il la connaissait depuis Breuer. Mais là, il ne se contente pas de dire que c'est le substitut d'une pulsion, il voit apparaître l'effet cumulatif, qui n'est autre que l'effet de la jouissance. Bien sûr, l'image bien connue qui résume ça, c'est l'attaque hystérique, de la femme hystérique, qui mime une agression sexuelle, de façon motrice, c'est-à-dire qui, en tant qu'homme agresseur, arrache ses vêtements de son propre corps, et en tant que femme agressée, retient ses mêmes vêtements sur son propre corps. Voilà. C'est là que se noue l'hystérie. J'attire l'attention, d'ailleurs, qu'il faudrait revenir à une théorie de l'attaque hystérique, puisque c'est l'attaque hystérique qui, même si elle prend des formes moins charcotiennes, enfin, de nos jours, nous donne vraiment la clé de la question de la jouissance, et de la jouissance hystérique, en tant que là, on voit comment elle en vient à se féminiser. Et j'attire l'attention sur ce point, n'est-ce pas ? Il y a deux théories du fantasme chez Freud. La théorie du conflit et la théorie de l'accumulation. Alors c'est très curieux, chez Freud, chaque fois qu'il décrit l'essentiel, c'est sa modestie, il nous dit, oui, mais enfin, bon, c'est peut-être... La thèse générale, c'est le substitut, et puis, alors, c'est moins universel, il y a en plus la bisexualité. Ben non, en l'occurrence, la bisexualité, c'est l'essentiel. C'est là que la jouissance se produit comme un effet d'accumulation. C'est là où l'hystérique, et nommément la femme hystérique, nous donne en quelque sorte le modèle de cette double identification. Double identification qui nous montre un corps attaqué et fulguré par une jouissance. Il y a là un modèle qui me paraît essentiel, c'est-à-dire que la jouissance, c'est quand justement le symptôme est double, qu'il est à la fois masculinisé et féminisé. On sait bien que l'hystérique, c'est ça, le drame, en même temps l'aspect actif de la femme hystérique, c'est qu'elle joue non pas une identification multiple, mais une identification double, elle jouit en tant qu'homme et en tant que femme. Telle patiente qui, par exemple, trouve le moment terrible, c'est quand le phallus se retire de son corps, puisqu'elle voudrait le retenir, là. Mais, au fond, on peut dire, c'est parce qu'elle est au comble de la jouissance du rapport sexuel. Non, parce que son problème, c'est plutôt de faire les deux, de faire les deux rôles. Et c'est ce corps, comme accumulateur d'énergie, qui caractérise la jouissance. Donc le fantasme apparaît selon deux logiques, comme compromis d'un conflit, comme effet de cumul. C'est ce qui fait que l'hystérique ne jouit pas qu'un peu. Et surtout, elle ne jouit pas qu'une fois. Elle est appareillée, n'est-ce pas, d'une double jouissance. Et le comble, c'est ce qui fait que ça la laisse toujours sur sa faim. C'est l'excès là, c'est l'excès même qui la laisse toujours sur sa faim. Donc voilà, j'ai pas dit que ça l'amuse, je dis que c'est une jouissance douloureuse de faire l'homme et de faire la femme, d'être doublement chargé de mission. Voilà. Donc en plus, oui, avec pas, tout ça, c'est pas d'humour facile, on l'entend tout le temps dans l'hystérie, voire dans le discours même, enfin, la parole même de la féminité, avoir la tension des uns et des autres, des unes et des autres. C'est ça, là, si je peux dire, la vraie transsexuelle. Voilà. Aussi, ce qui fait d'ailleurs, on est juste face à la mystique, parce que Freud nous dit bien dans les nouvelles conférences que la mystique, c'est quand il y a une délocalisation du ça, qui littéralement monte à la tête du moi. C'est ça. C'est quand le moi, normalement, le moi est séparé du ça. Et au moment où il nous introduit la topique, il nous donne la mystique, qui est une délocalisation des circonscriptions psychiques. Il n'y a pas d'autre définition freudienne du mystique que celui dont le moi est directement informé des mouvements du ça. Et ça arrive tout le temps aux hystériques. Voilà l'effet inconscient du jouir. Alors, c'est ce qui fait que, du coup, en un sens, l'introduction de l'au-delà du principe de plaisir, qui est un tournant évidemment essentiel en 1920, c'est pas un coup d'État, c'est justement pas un putsch, on parlait tout à l'heure, qui fait que brusquement Freud, au fond, lâcherait le principe de plaisir. Non. D'ailleurs, bien entendu, c'est pas un au-delà transcendant. Il faut quand même connaître un peu simplement le mot allemand. Jenseits en allemand, ça n'a jamais été la transcendance, quelque chose qui serait au ciel, bien au-delà du plaisir. Jenseits, c'est simplement ce qui est de l'autre côté du rivage. Voilà. Donc, il y a un autre côté du rivage du plaisir. Freud, d'ailleurs, n'a jamais renoncé à la primauté du principe de plaisir, mais il nous oblige à penser le plaisir comme une sorte d'agent double, Il le dit pratiquement dans Au-delà du principe de plaisir. D'un côté, ça reste la tendance de fond de la psyché, éviter le déplaisir, mais d'autre part, ce drôle d'oiseau qui est le principe de plaisir, il est susceptible de se mettre au service d'une puissance étrangère, qui est la pulsion de mort. C'est ce qui fait que dans toutes nos expériences, nous faisons, et c'est là on voit bien comment la sorcière peut nous aider, à comprendre que dans toutes nos expériences de plaisir, nous faisons en même temps l'expérience possible d'une débauche du principe de plaisir, qui fait que ça fait tellement plaisir que ça passe à l'ennemi, disons au rivage d'en face, qui est la pulsion de mort. Le masochiste le montre de façon exceptionnelle, puisque bien entendu, Freud le dit très bien dans le problème économique du masochiste, le grand paradoxe du masochiste, pour ça qui nous inquiète, c'est qu'il semble avoir narcotisé le principe de plaisir, qui est quand même le principe recteur de la vie psychique, il dit même de la vie tout court. C'est comme ça que la mort rentre dans la vie. Sabina Spielrein, qui avait repéré ça dès 1911, mais de façon relativement confuse, mais enfin, comme par hasard sur le versant hystérique, puisque Sabina Spielrein, quand en 1911, elle en avance sur Freud, elle parle de l'instinct de destruction, l'exemple qu'elle donne, c'est l'exemple hystérique d'une femme qui, à l'approche de la satisfaction sexuelle, voit en elle monter l'angoisse, et c'est là qu'elle place l'instinct de destruction. Effectivement, c'est cette face de mort du plaisir qui nous livre la jouissance. Donc, voyez que Freud ne parle littéralement que de ça. Mais Lacan, si je peux dire, recueille dans son escarcelle cette espèce de distillation, finalement, que Freud finit par nous livrer à la fin de sa vie avec la pulsion de mort. Chez Lacan, je dois évidemment accélérer, mais je rappellerai quand même que la jouissance, elle intervient d'abord au miroir comme jubilation spéculaire, puis elle intervient comme envers du désir, dans une perspective hegelienne. En 58, Lacan sépare le désir de la jouissance dans une perspective hegelienne, comme point d'articulation entre le corps et le langage, et finalement comme plus-value du côté de l'objet. Ce qui lui fait dire, par exemple, que c'est Marx qui a inventé le symptôme, c'est ça que ça veut dire. Paradoxalement, c'est le théoricien de la plus-value qui nous livre en même temps le théoricien de la... C'est pas les psychologues, c'est des économistes, les économistes marxiens, qui nous livrent la plus-value. Voilà. Alors, je dirais que d'une certaine manière, Freud réalise la plus-value. Il la met en évidence à travers cette espèce de cumul qui est en même temps une fonction d'excès. Alors, c'est là où... aller jusqu'au bout de cette espèce de marathon, mais surtout pour désigner à partir de cette dynamique métapsychologique et lacanienne comparée, rapidement comparée, pourquoi le moment du féminin apparaît comme, si je peux dire, la vérité même de cette dialectique de la jouissance. Le fantasme, en son caractère bisexuel, l'avait déjà annoncé. C'est quand même très intéressant de voir comme mise en acte, n'est-ce pas, théâtral, le point est très important, n'est-ce pas ? Puisque la théâtralité est le lieu même de la bisexualité en ce sens. C'est intéressant de voir apparaître en même temps cette vérité de la jouissance étant celle du féminin. On sent entre parenthèses que l'homme, quand il fait l'hystérique, ce qui lui arrive plus souvent qu'à son tour, est tout à fait susceptible de montrer son féminin, d'articuler ce féminin de la jouissance. L'obsessionnel a sans arrêt affaire à cette jouissance. L'horreur d'un plaisir ignoré chez l'homme aura, ça fait la jouissance. Lacan dit l'horreur d'une jouissance ignorée. Non, Freud dit justement l'horreur d'un plaisir ignoré. Mais horreur plus plaisir, ça fait jouissance. De même, Lacan nous dira en écho, ce que je trouve extrêmement intéressant au plan de la clinique obsessionnelle, qui moi m'a aidé dans certains cas, l'importance de la masturbation chez l'obsessionnel, le plus génitalisé. Pourquoi est-ce que, fût-ce comme corvée, la masturbation est toujours là chez l'obsessionnel ? Parce qu'il s'agit d'écraser, dit Lacan, d'écraser le désir au moyen de la jouissance. Et c'est le recul de l'obsessionnel face au désir qui fait qu'il cherche à matraquer le désir au moyen de sa jouissance, d'où d'ailleurs le caractère assez triste de la masturbation de l'obsessionnel, mais qui fait qu'il n'arrive pas à rejoindre le corps de l'autre par le désir et qu'il est sans arrêt rapatrié sur cette jouissance originaire. Notez bien au sens freudien, en ce point de soudure, c'est un terme de plomberie que Freud emploie, soudure entre le corps et le fantasme. Alors, j'y viens. Pourquoi est-ce que tout ça nous ramène, en quoi tout ça nous ramène à cette espèce d'érection du féminin, quoi, hein ? D'une certaine manière, la femme hystérique est en quelque sorte la pionnière dans ce mouvement. C'est un signe avant-coureur. C'est celle qui est en avant, cette question. Mais là où Freud rencontre cette question dans la mythologie, c'est dans ce petit texte que vous connaissez sans doute, qui est un texte où il dit presque rien. Parce que c'est la manière assez digne, je trouve, que Freud a parlé de la jouissance, c'est-à-dire de la désigner de se taire. Bon. C'est dans ce petit texte qui s'appelle « Grande et la Diane des Éphésiens ». Mais l'histoire, il lit un texte de Sartio, Félix Sartio, qui était un anthropologue français, sur les villes d'Asie mineure, où on nous décrit l'histoire d'Éphèse en Asie mineure, et notamment, c'est ce qui a frappé Freud, cette déesse maternelle qui apparaît à Éphèse. Il n'y a dans ce texte aucune argumentation. Il n'y a pratiquement pas de psychanalyse dans ce texte. Hein. C'est une fiche de lecture. Pourquoi est-ce que Freud fait une fiche de lecture ? C'est curieux, en y réfléchissant, j'ai beaucoup réfléchi sur ce texte, c'est presque une rêverie diurne. Où au fond, vous savez, quand on est frappé par un texte, on a envie de le répéter, quoi. Il le répète. Mais naturellement, il le répète en isolant un point essentiel, qui est le féminin, enfin, disons-le, le féminin même de la jouissance. Je rappelle de quoi il s'agit. En Asie mineure à Éphèse, il y a de tout temps. Osons employer l'expression stéréotype de tout temps. Quand on dit de tout temps, ça ne veut rien dire, sauf peut-être que ça veut dire ça. C'est-à-dire du temps où la déesse mère était là. De tout temps, il y a eu des déesses maternelles. Il y a des endroits comme ça, hein, que l'histoire des religions connaît bien. Hein. Notamment à Éphèse en Asie mineure, donc, on trouve un temple grandiose consacré à Artémis, Diane, qui a fait la renommée de l'ancienne ville grecque d'Éphèse en Asie mineure. Et là, Freud se met à recopier. C'est amusant, il recopie Sartio. Hein. Il raconte, presque en bon élève, enfin, il raconte que, voilà, à Éphèse, il y a eu des vagues de conquérants. C'est la loi de l'histoire, hein, des vagues de conquérants, d'hommes conquérants, comme ça, qui se déversent sur les lieux, mais qui ont la sagesse, en même temps, de changer juste les noms. Il n'y a pas de révolution des dieux, enfin. Les émigrants d'Ionie ont trouvé vers le 8e siècle le culte d'une ancienne divinité maternelle, qui devait s'appeler Upis, qu'ils ont assimilé à Artémis. C'est d'ailleurs l'un de ces temples qui a été détruit par Hérostrate en 356. Et à chaque fois, le temple est reconstruit plus magnifique que jamais. Freud nous dit avec une sorte d'humour que c'est devenu une sorte de Lourdes de l'Antiquité. Nous avons, n'est-ce pas, notre Éphèse, c'est Lourdes. Là se situe l'épisode de l'apôtre Paul, qui, lui, est un révolutionnaire. Hein. Lui, il tente, vers 54 de notre ère, d'imposer le Dieu-Fils, c'est pas, sur le terrain même de la déesse maternelle. Hein. C'est un juif beaucoup trop inflexible, nous dit Freud, pour laisser subsister à côté de sa divinité l'ancienne divinité sous un autre nom. Et là se situe l'émeute. L'émeute, c'est aussi une question de profit. Voyez la jouissance. Partout où il y a de la déesse maternelle, les affaires fructifient. Hein, dit sans ironie. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, dès qu'il y a la déesse mère qui foncièrement se tait, vous voyez se multiplier les reliques. Hein, et naturellement, le bénéfice. Hein, ça rapporte ce qui fait que les pieux artisans de la ville se sont déversés dans la rue d'Éphèse au nom, ça a été l'une des premières grandes manifestations de l'histoire, hein, au nom de Grande et la Diane des Éphésiens. Et Freud met cette citation dans ce titre. Mais c'est en ce lieu encore que Jean, l'apôtre, l'autre apôtre, ce personnage mystérieux en fait, amena Marie, que Jésus lui a recommandé sur la croix, comme quoi c'est vraiment le lieu des déesses maternelles. C'est là qu'elle se donne, c'est le lieu des mères, quoi. Et si, la cité a disparu sous le double coup de boutoir de l'islam, nous dit Freud, et de l'ensablement du fleuve. Vous voyez, les villes maternelles, elles ne finissent jamais. Hein. Elles s'ensablent. Et ce seul mot qu'il a, c'est de dire à lui, c'est de dire que la grande déesse n'avait pas renoncé à ses droits et qu'elle est restée toujours unberührt, intouchable, et über jeden Angriff, au-delà de toute atteinte. C'est même là qu'elle s'est montrée dans le délire hystérique de Catherine Emmerich, la vision mystique au XIXe siècle, où Catherine Emmerich a vu la déesse mère, mariale, lui désigner sa chambre et même jusqu'à la forme de son lit. Et Freud, d'ailleurs, bon public, dit qu'en effet, ça s'est vérifié. On la retrouve. Voilà. Alors, Lacan n'a pas oublié ça. Comme toujours, il ne donne pas, enfin comme toujours, comme presque toujours, il ne donne pas ses sources freudiennes, ses dérivations freudiennes. Mais là où Freud est, en tant que lecteur, face à cette jouissance indélocalisable, grande est la Diane des Éphésiens, Lacan dit l'autre agenos en sa jouissance. Certes, il repasse par la Diane blanche, par un certain nombre d'anthropologues. Jacques Alain Miller avait dit à une certaine époque que c'est lui qui avait mis Lacan sur la trace de la Diane blanche à travers un certain nombre de textes mythologiques. Oui, mais il y a la Diane des Éphésiens aussi. Lacan répète en quelque sorte le geste de Freud. Alors, ce point, n'est-ce pas, du féminin, je m'achemine vers ma conclusion, ce point même du féminin en quelque sorte incarné, qui revient toujours à la même place, quand est-ce que Freud le repère? C'est amusant parce que tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé du père, là, au fond j'explore la même. Enfin, c'est le même site, quoi, sauf que c'est du côté du féminin, du maternel. Il repère ça au moment où il écrit Totem et Tabou. Dans cette longue gestation de Totem et Tabou, il prend juste un moment en 1911 pour sortir du meurtre du père pour venir à la jouissance de la mère. Vous savez que quand Freud parle de la déesse mère, il dit qu'elle est là mais qu'on ne peut pas la localiser dans l'histoire. Il n'en rajoute pas avec l'histoire du matriarcat, etc. Il se contente de dire que oui, il y a dû exister un moment où la déesse mère était là, mais elle n'est localisable à aucun moment déterminable de l'histoire. Voyez ce qui apparaît, l'opposition entre ce qui se passe avec le meurtre du père qui est destiné à s'historiciser. C'est pas parce que les hommes ont tué le père qu'ils ont une histoire, chez Freud. Voilà. La philosophie de l'histoire suppose la mort du père. Oui, mais il y a aussi ce quelque chose qui revient toujours à la même place, qui est plus vif que mort ou plus mort que vif, ça n'a plus d'importance. Et c'est là où Lacan placera la chose maternelle. Et c'est ce féminin même de la jouissance qui là s'incarne. Vous voyez que Freud ici, il ne veut pas ni commenter, ni chanter là-dessus. Il n'y a pas de « ô déesse maternelle », etc. C'est plutôt la position de l'eunuque d'ailleurs. Parce que justement, la déesse maternelle, on sait comment elle fonctionne dans les temples hindous ou autres, elle a besoin d'un clergé d'eunuque. Mais, s'il n'y a aucune incantation à la déesse mère qu'on trouve dans bien des discours non analytiques, Freud ne défaille pas à penser cette question de la jouissance, mais c'est juste comme ça une note. Une note sur la jouissance de la mère. Tout ça, ne croyez pas que ça soit de la mythologie, puisque, alors c'est amusant, on se recroise, mais c'est ça qui revient dans notre clinique. Je dirais même que ça, c'est la base la plus solide de la sexologie. C'est de voir comment les sujets qui, effectivement, dans l'impuissance, dans l'éjaculation précoce, ont toujours affaire, je pourrais donner vraiment beaucoup d'exemples, à une mère froide. Pas simplement parce qu'ils ont été mal contenus, enfin, tout ce discours d'être mal contenus, l'école du bon lait, enfin, non, pas là. Non, c'est parce qu'ils ont été confrontés très activement à une jouissance maternelle qui les a d'emblée fixés, soit dans un priapisme sans fin, soit effectivement dans le fait que à peine la jouissance de leur partenaire est à l'approcher qu'ils se liquéfient. À partir de là, on peut mettre en place des discours sur la difficulté de contrôler. Ils se contrôlent aussi bien que les autres, sauf que face à la jouissance, évidemment, il n'y a plus qu'à, au fond, se dissoudre dans le corps de la mère. Mais enfin, à partir de là, inutile de dire que c'est toute la clinique de la jouissance qui est là. On sait comment, chez la sainte femme, à la jouissance sidérée, qui, je vais vous donner un exemple, une mère qui signifie à son fils « Oh, ben, sa relation avec ton père, tu sais, j'enlevais même pas ma robe. » Voilà, j'ai toujours cette image-là de cette citation. Eh bien, à cette femme frigide, fils pervers. C'est un adage lacanien qui a évidemment sa valeur clinique si on la resitue comme ça. Alors, vous voyez, d'une certaine manière, ce point, j'ai voulu surtout montrer comment Freud ne défaille pas à penser la jouissance, mais il n'isole pas. Alors, sans doute, il y aurait une autre histoire là-dedans, hein, probablement parce qu'il ne veut rien qui ressemble, c'est au fond son mosaïsme personnel à Freud, hein, rien qui ne nous prosterne devant l'idole, fut-elle celle de la déesse mère. La jouissance, faut pas trop la titiller chez Freud. Quoi. Mais ne pas la titiller, ça ne veut pas dire ne pas la reconnaître en tant que telle. Hein. Vous voyez, le texte très court sur la mère, c'est juste une page. Le texte très long, c'est totem et tabou. Hein. Mais l'envers inconscient du lien social, c'est bien cette jouissance. Hein. Et on sait comment certains fils peuvent faire, peuvent constituer une foule criminelle en invoquant une déesse mère. Je ne suis pas sûr, ce serait une discussion, que dans les grands meetings tellement fascinants de Hitler, ça ne soit pas encore l'encens à la déesse mère qu'on enjoignait de brûler. Enfin, voilà. Ce qui fait évidemment que c'est le père et la religion idoine qui étaient spécialement visés. C'était même la mission qui s'était donnée. Enfin, voilà. Quand Freud donc se réfère à ça, vous voyez, il a un peu l'attitude des faustiennes des mères. Enfin, il y a des gens qui veulent y aller, hein, du côté des mères. C'est-à-dire aller, ce que Freud demande à Méphistophélès, c'est-à-dire aller du côté des mères pour avoir la vérité. Qu'est-ce que veut en fait Faust? C'est pas simplement le savoir, c'est pas même pas l'éternel féminin, c'est aller voir comment est faite la jouissance, comment elle est structurée en tant que telle. Et c'est ça qui, d'une certaine manière, pose cette espèce de souveraineté de la jouissance. Alors, et je vais conclure, ça tombe bien, puisque je voulais citer, deux choses, en fait. D'une part, bien sûr, cet adage de Lacan sur qu'il faut qu'il y ait un opérateur qui permette à la souveraineté de la jouissance de condescendre au désir, et ça s'appelle l'amour. Là aussi, enfin, c'est une très belle formule si on ne les récite pas. C'est-à-dire que si on voit qu'effectivement, la souveraineté même de la jouissance suppose qu'opère là, sans jeu de mots, la métaphore de l'amour pour que le désir soit là. Sinon, vous savez que j'ai l'habitude de dire, Karol Wojtyla, Jean-Paul II, dans ses textes théologiques, il parle tout le temps de l'opposition entre le désir et la jouissance. L'opposition entre le désir et la jouissance, ça peut être une opposition chrétienne. Ça serait très intéressant de voir d'ailleurs s'il n'y a pas quelque chose chez Lacan de ce genre au plan du signifiant chrétien. Mais est-ce que l'usage qu'en fait Lacan, c'est évidemment pas d'une hiérarchie. C'est une question de que le sujet advienne au désir via l'amour. Alors, c'est là, sans doute, où Freud nous montre, et je termine par là, mais vous voyez, comment le petit Oedipe, en tant que c'est un détective, qui cherche, c'est ça la curiosité sexuelle. Il achoppe sur la jouissance de la mère. Il achoppe même littéralement sur le delta maternel, l'énigme du Nil quand même. C'est le delta, c'est quand même une métaphore du maternel et du féminin. Et c'est là-dessus que s'englue son intelligence, son petit homme. Et heureusement qu'il va se battre avec le père pour ne pas rester en tête à tête avec cette question. Peut-être que, bon, je paraphrase comme souvent Freud, n'est-ce pas ? Peut-être que là où la jouissance était, alors, le désir doit advenir. Soit comme symptôme, soit comme amour. Mais dans les deux cas, ça suppose de passer par l'épreuve du féminin. L'épreuve peut-être faustienne, voilà ce que j'ai voulu évoquer.
Merci. Tout à fait congruent avec cette présentation du phallus, n'est-ce pas, avec la double sexualité de l'hystérique, qui justement ne sait pas de quel côté se situer, est-ce qu'elle possède ce 1 ou pas, quoi.
C'est ce qui l'attaque.
Voilà. La salle a la parole. Alain.
Il y a un autre texte très court de Freud sur la divinité maternelle. Je pense qu'il serait très fructueux de connecter avec la Diane des Éphésiens. C'est le texte qu'il a écrit après la découverte de statuettes égyptiennes bisexuées, où il évoque des mots primitifs, c'est-à-dire des...
Avec un Abel, en s'appuyant sur Abel.
Oui. Ouais. Je pense que ce qu'il aborde et qu'il ne développe pas, parce qu'à cette époque-là, il a abandonné cette question, parce que le lesbianisme arrive et il a tourné dans la question du père, mais il était en chemin pour réfléchir, pour s'attarder sur, à trois parties de cette question, du double sens des mots originaires. Je pense qu'il aurait pu dire quelque chose de sa part sur la jouissance originaire, l'énigme de la jouissance originaire.
Oui, tout à fait, parce qu'en un mot, dans ce texte, il s'appuie sur Karl Abel, linguiste de fin du XIXe siècle, avait été frappé par la possibilité, notamment dans la langue égyptienne, ensuite bon, il a appliqué ça aux langues indo-européennes et sémitiques, c'est-à-dire la possibilité qu'un même mot ait un sens opposé. Cette ambivalence absolument radicale, qui effectivement est une... que Freud ne le dise pas exactement comme ça dans le texte. Lui s'en sert pour montrer le caractère homologue avec le travail du rêve. Que chaud et froid, ça puisse être la même chose, c'est en même temps la catastrophe, cette ambivalence pour l'univocité du langage. Mais effectivement, c'est un beau symbole du fait que le symbolique, qui repose sur la discrimination, hein, X n'est pas Y, soit à tout moment se... voilà, subverti par
je pense que
le féminin.
Cette idée de la subversion du langage pourrait être mise en rapport avec une note de bas de page où Freud fait remarquer que la psychanalyse, à partir de... découvre que l'Œdipe n'explique pas la subjectivité féminine, que sans doute il faudrait connaître la subjectivité de la fille mycénienne et pas de la fille thébaine, œdipienne, parce qu'effectivement, mais là il y a des travaux qui ont été publiés depuis qui n'ont peut-être pas connu, c'est que la civilisation mycénienne était une civilisation dans laquelle le dualisme ultérieur du symbolique est aboli.
Dans les, chez les primitifs, les mots qui sont en double sens se réfèrent généralement à tout ce qui fait objet de tabou. Il y a toujours ça.
Oui, mais justement, ce qu'on essaie de penser, c'est quelque chose qui est antérieur au tabou. Quand le tabou s'est constitué, enfin, mais, il suppose une articulation totémique.
Dans les fins d'Australie, tout ce qui est frappé de tabou a un double sens.
Oui.
Ce n'est pas n'importe quel mot. C'est...
oui, mais il y a, enfin, pour parler comme Lacan, dans la planche imprimée, il y a l'installation du... Une fois qu'on a du totem, on a du tabou, on a de la discrimination et de l'ambivalence. Mais il y a aussi, là, ce qu'on discute au fond de l'être même ambivalentiel, pré-symbolique, d'une certaine façon. C'est-à-dire la possibilité de revenir à cet aspect-là.
Mais c'est ce qui est pré-symbolique qui fait que le symbolique ait lieu. C'est-à-dire que. C'est à partir de ce qui est, de ce qui n'est pas symbolique, qu'il y a du symbolique.
Oui, c'est une lecture.
D'autres questions? D'autres remarques? Bon. Bon, alors à ce moment-là, nous allons entrer dans les détails. Il est 4h10, on va faire une pause.